Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
7h30 sur Radio Classique. Bon réveil.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Bonne journée à vous tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Avec d'abord, pour ouvrir ce journal de 7h30 en dehors de la situation dans le Sud-Est et du débat de la nuit dernière, un dossier qui pourrait bien être explosif, c'est en tout cas ce qu'on pense du côté de l'exécutif Élysée et Matignon, car 45 ans après la loi Veil, retour mouvementé de l'IVG à l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il exactement, mon cher Marc Bourreau? Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Examen aujourd'hui d'une proposition de loi sur l'extension du délai d'interruption volontaire de grossesse. Il passerait de 12 à 14 semaines, alors que plusieurs centaines de femmes hors délai partent aujourd'hui à l'étranger pour se faire avorter. Terminer la clause également de conscience pour les médecins. Le sujet divise au sein de la majorité en général et au sein même de l'exécutif en particulier, Camille Schmitt.
Pour le gouvernement, c'est un problème de méthode. L'exécutif aurait préféré un débat plus vaste, plus long. La députée macroniste Cécile Muscotti, co-auteur d'un rapport à l'initiative de cette proposition de loi, tient à les rassurer sur ce point.
Il nie un petit peu les travaux qu'on aurait menés, si je puis me permettre. Le rapport parlementaire que l'on a mené sur plus d'un an, où on a multiplié les auditions de professionnels, d'associations, de femmes, nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes les interrogations et toutes les peurs.
D'autant plus que pour la rapporteure du texte, Alban Gaillot, il s'agit moins ici de questions éthiques que de rendre effectif l'accès à l'IVG à toutes les femmes sur le territoire.
Moi, je suis là pour répondre aux problématiques que se rencontrent les femmes. Quand on sait que 3000 à 5000 femmes chaque année partent à l'étranger pour avorter, parce que les délais sont trop courts, il y a une urgence pour les femmes.
Alors officiellement, personne ne veut parler de malaise entre la majorité parlementaire et Matignon, mais ça n'est pas la première fois que leur relation se crispe. Pour Jean-Louis Touraine, député LREM du Rhône, c'est le cas à chaque fois que le débat porte sur ces sujets sensibles.
Il y a la volonté de la part du gouvernement d'éviter que cela ne clive entre ceux qui veulent toujours plus et ceux qui veulent toujours moins. Il vaut mieux avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce chemin-là.
Le gouvernement a saisi le Comité consultatif national d'éthique pour qu'il rende son avis avant que le texte n'arrive au Sénat.
Camille Schmitt, deux policiers blessés par balle la nuit dernière à Herblay dans le Val d'Oise. Les deux agents, visiblement en civil, se sont fait dérober leurs armes par des agresseurs qui leur ont tiré dessus. Trois personnes sont activement recherchées ce matin. Le pronostic vital d'un des deux policiers est actuellement engagé.
Voilà, politique sécuritaire dans la région Île-de-France. Nous en parlerons évidemment avec Valérie Pécresse tout à l'heure. Emmanuel Macron annonce un effort dans le temps, 6 jours après les intempéries dans les Alpes-Maritimes.
Le président, au plus près des sinistrés de la tempête Alex hier, visite dans des villages coupés du monde, Saint-Martin-Vésubie, Tende, Breil-sur-Roya, ravagés par les inondations le week-end dernier. Après l'émotion, la reconstruction, les dégâts sont évalués à 1 milliard d'euros. L'état de catastrophe naturelle entre en vigueur aujourd'hui. Le président annonce aussi plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement, avec notamment la création d'un fonds Alpes-Maritimes. Céline Cajolis.
Oui, car les routes ou les ponts qui appartiennent aux communes, aux départements, aux régions ou à l'État ne sont pas assurés. Cela coûterait trop cher. Alors la logique voudrait qu'en cas de destruction, comme c'est le cas dans la vallée de la Roya, ce soit aux propriétaires de ces infrastructures de payer les travaux de réparation, sauf qu'on parle de chantiers titanesques qui vont coûter très cher et que clairement, les collectivités n'ont pas les moyens de les financer seules. L'État va donc mettre la main à la poche. Au moins 100 millions d'euros débloqués dans les prochains jours, a annoncé hier Emmanuel Macron. Le chef de l'État estime également qu'il faudra plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires et l'aide de l'Europe pour y arriver. L'État compte enfin sur la région, les départements et les communes proches qui le peuvent pour cofinancer ces travaux qui vont durer plusieurs mois. C'est la procédure habituelle. C'est déjà ce qui s'était passé aux Antilles en 2018 lorsque l'ouragan Irma avait dévasté l'île de Saint-Martin.
Quant au bilan des intempéries ce matin, 5 morts, 7 personnes toujours recherchées, 13 disparus potentiels.
L'État va-t-il resserrer un peu plus les taux sur le front de l'épidémie de coronavirus?
C'est ce qu'a laissé entendre en tout cas hier soir Emmanuel Macron en marge de son interview depuis les Alpes-Maritimes. Aux 20h de TF1 et de France 2, le nombre de contaminations continue de grimper. 19 000 malades supplémentaires en 24 heures. La surcharge se profile dans les hôpitaux. Le chef de l'État appelle donc à plus de restrictions là où le virus circule trop vite. Après Marseille et Paris, qui sera le prochain sur la liste? Bordeaux, Lille, Lyon. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, pourrait en dire plus dès ce soir lors de sa conférence de presse hebdomadaire.
Au-delà des restrictions, les tests pourraient aussi devenir dans la bataille ou revenir dans la bataille contre la progression du virus.
Avec notamment les tests salivaires, antidotes au fil d'attente dans les labos. Une étude menée par un laboratoire français de Montpellier et le CNRS suscite de l'espoir. espoir. Après des mois de recherche, le test EasyCov, c'est son nom, a été jugé fiable par la Haute Autorité de Santé. Petit bémol, elle ne préconise pour l'instant que pour les cas asymptomatiques et les personnes à risque. Une aberration pour le professeur Franck Molina, directeur de recherche au CNRS. Il est à l'origine de ces tests.
Il y a bien du virus dans la salive. On a la réponse tout de suite et presque aussi fiable qu'un laboratoire. Ils sont à 87,5% de sensibilité. Donc pourquoi s'en priver ? C'est un outil extrêmement performant et qui, à mon avis, mérite de compléter le dispositif existant pour libérer l'attention sur les laboratoires d'analyse où il y a de longues queues et des tensions sur les réactifs. Et en même temps, faire des tests là où on n'en fait pas et on devrait en faire, à l'entrée des EHPAD. Dans les entreprises sont extrêmement demandeuses. C'est pourtant là que se propage le virus. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer tous ces résultats et on ne teste pas les gens qui propagent cette infection, qui sont souvent des asymptomatiques, qui s'ignorent.
Des propos recueillis par Rémi Pfister. Et en pleine pandémie, une autre question se pose ce matin, celle de l'insertion professionnelle des plus jeunes, les 16-25 ans, ce qu'on appelle la génération Covid. La moitié d'entre eux estiment que la crise a un impact très important sur leur futur. Enquête OpinionWay pour la Fondation Apprenti d'Auteuil que vous dévoile Radio Classique ce matin. Difficulté à trouver un emploi, un stage pour se loger. Une injustice supplémentaire pour un public déjà fragilisé. Émilie Vallès est allée à leur rencontre.
La crise le dépasse un peu, mais Andreas, 16 ans, élève en première option électricité, sent bien que cela va impacter son avenir.
Ça va être compliqué cette année pour trouver les stages. Déjà, les gens qui sont plus âgés que nous ont du mal à trouver, donc j'imagine pas nous. Ils vont pas nous prendre à cause du corona. Même mes parents, ils me disent que ça va être compliqué pour trouver du travail plus tard.
Aboubakar, lui aussi apprenti, a vu son stage dans le service technique d'un grand hôtel annulé l'an dernier et sa scolarité perturbée.
Les cours, c'est dur de s'y remettre parce que du coup, il y a eu des lacunes. Mais c'est un mal pour un bien. Je suis encore plus déterminé pour avoir mon diplôme. Il faut encore plus s'accrocher, je pense. Parce que dans le monde de plus tard, ce sera plus dur pour nous que ça l'est pour nos parents actuellement.
Se dépasser, c'est justement le message de Frédéric François, chargé d'insertion à la Fondation Apprenti d'Auteuil, qui voit bien que les inégalités se sont creusées.
On a des jeunes qui ont des parcours de vie très compliqués, des vies familiales compliquées. Ils n'ont pas forcément les ressources mentales pour faire face à cette situation. Mais on ne veut pas perdre notre temps à s'apitoyer. Même si l'année dernière, on a perdu des contrats d'apprentissage, eh bien justement, on a essayé de trouver de nouveaux partenariats sur 15 jeunes accueillis en prépa apprentissage. Tous nos jeunes ont trouvé des contrats. Ça demande beaucoup de persévérance.
Un suivi personnalisé nécessaire quand on sait que 90 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme.
Émilie Vallès.
La suite avec le sport.
Et les sports et le tennis. À la fin, c'est toujours Djokovic qui gagne le numéro 1 mondial. À peine bousculé hier soir en quart de finale contre l'Espagnol Carreño Busta. Le Serbe file en demi-finale, tout comme le Grec Tsitsipas. Et puis le football, promenade de santé hier soir au Stade de France pour les hommes de Didier Deschamps. En match amical, l'équipe de France a terrassé l'Ukraine 7-1.
Merci beaucoup. Il est 7h37. Nous serons en direct avec donc Laurence Haïm dans un instant. Nous passerons un extrait du débat de la nuit dernière. L'essentiel a été une bataille sur l'économie et sur la gestion du Covid, donc du débat entre Mike Pence et Kamala Harris. Je voudrais qu'on écoute donc cette prix Nobel, cette femme de 51 ans extraordinaire qui semble-t-il a révolutionné donc par les ciseaux moléculaires les possibilités de se soigner par la thérapie génique. Elle a souligné dès l'obtention de ce prix Nobel, qui est historique car elle est la première femme à l'obtenir en duo avec une autre chercheuse américaine, les carences de la recherche en France.
J'étais très émue parce que en fait je pensais que j'avais du mal à réagir et à comprendre que c'était réel. La recherche scientifique a besoin d'être soutenue par le gouvernement, par tous les fonds public et privé.
Et ça n'est pas assez, en fait.
Ça ne l'est pas assez.
Voilà pour ses propos, donc, mais qui résonnent évidemment dans le contexte d'aujourd'hui. Elle est partie aux États-Unis, où elle a pu lever 25 millions de dollars, et maintenant elle travaille à la fois en Suède et à Berlin, après avoir fait l'essentiel de ses études, évidemment en France, notamment donc à l'Institut Pasteur, et l'obtention d'un doctorat de microbiologie. Ciseaux moléculaires, retenez cette formule. Elle est signée Emmanuelle Charpentier et sa collègue américaine. 7h39, voici tout ce qui...